20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, il sera question de transcription ce soir avec l'un des grands maîtres du genre aujourd'hui, le pianiste Florian Nowak, qui nous racontera sa démarche alors que sort son nouvel album, réunissant justement un florilège de ses transcriptions. Et puis avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, nous nous offrirons une petite escapade à Cracovie. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Yujia Wang vient d'être nommée artiste en résidence de l'Orchestre Philharmonique de New York pour la prochaine saison. Elle y donnera donc plusieurs concerts sous la direction de Gustavo Dudamel, le futur directeur musical de l'orchestre, ou en dirigeant elle-même ses musiciens de son piano. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Un petit tour au Bouffe du Nord pour applaudir lundi soir le pianiste Jean-François Esser dans un programme en clair-obscur, nous promettons, les David Puntler Tanze de Schumann, l'invitation à la valse de Weber, des bagatelles de Beethoven ainsi que des pages de Lachenmann et Widmann que Jean-François Esser jouera sur un piano Schickring de 1868 avec donc des sonorités particulières, des sonorités du passé que l'on a oubliées. Un concert intitulé Eusebius et Florestan. Après le Théâtre des Champs-Élysées et la Philharmonie de Paris, une autre grande institution parisienne a dévoilé la programmation de sa prochaine saison. C'est l'Opéra National de Paris qui, à cette occasion, a témoigné de sa bonne santé financière, lui permettant de dégager un bénéfice de 2,3 millions d'euros. Et cela grâce au développement du mécénat, aux visites du Palais Garnier et puis au retour du public dans les salles avec un taux de remplissage moyen de 93%. Alors la saison prochaine sont prévues 372 levées de rideau, 29 spectacles dont 13 nouvelles productions lyriques et chorégraphiques. C'est ainsi que les Brigands d'Offenbach feront leur grand retour au Palais Garnier dans une mise en scène signée Barikowski. L'opéra français sera d'ailleurs bien représenté avec un Castor et Pollux de Rameau confié au duo Théodore Courensis-Peter Sellars, un Péléas et Mélisande de Debussy revisité par Wajdi Mouamouad avec Sabine Devielle dans le rôle titre et puis Il Viaggio Dante de Pascal Dussapin sous la direction de Kent Nagano dans la production aixoise de 2022. Autre nouvelle production lyrique très attendue, L'Or du Rhin, prologue de la tétralogie de Wagner, tétralogie qui se déclinera sur plusieurs saisons jusqu'en 2026 à l'Opéra de Paris, avec ici le premier Wotan de Ludovic Tézier. Citons également le triptyque de Puccini par le metteur en scène Christophe Loy, avec Asmik Grigorian dans les trois rôles féminins, la reprise d'un formidable spectacle créé à Salzbourg. Extrait des Brigands d'Offenbach dans l'enregistrement de John Elliott Gardiner avec le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Les Brigands d'Offenbach à l'affiche au Palais Garnier en début mais aussi en fin de saison prochaine. Une nouvelle saison de l'Opéra de Paris dont vous découvrirez tous les détails sur le site de l'Opéra de Paris.
Laure Maison sur Radio Classique.
Une même œuvre peut exister sous plusieurs identités différentes, écrit Florian Noack dans la préface de son nouvel album, magnifique album entièrement dédié à la transcription, un art qu'il a fait sien depuis des années et qui lui permet d'explorer un immense répertoire. Florian Noack est justement avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Transcrire, c'est donner un nouvel éclairage, une nouvelle identité, donc à une œuvre, c'est aussi rendre hommage à un compositeur, c'est déclarer son amour pour un compositeur.
Oui, tout à fait. Enfin, on le fait, on passe pas des centaines d'heures à une transcription si on n'est pas fou de la pièce qu'on transcrit, ça je pense.
Alors justement, il y a beaucoup d'amour dans cet album, puisque vous l'écrivez d'ailleurs dans le livret qui l'accompagne, les pièces que vous avez réunies, elles sont toutes liées à votre vie, à des souvenirs personnels, voire à votre famille, vous évoquez votre père, vous évoquez votre sœur. C'est un album qui vous a conduit à convoquer des souvenirs et à partir de ces souvenirs, à les transcrire. Il y a une démarche très personnelle dans cet album ?
Oui, je pense en effet, mais c'est aussi un album avec des transcriptions qui, voilà, il y en a certaines que j'ai écrites il y a 15 ans, comme chez Razad ou des choses comme ça de Rimsky-Korsakov.
Oui, puisque vous avez toujours transcrit. Hein.
Oui, je le fais depuis que j'ai 16 ans, on va dire sérieusement. Évidemment, on a beaucoup de projets assez tôt, mais il y a beaucoup de ces projets qui ne se concrétisent que 15 ans plus tard. Donc c'est vrai que, oui, c'est un album qui fait référence à différentes époques de moi-même, en fait, de ma vie, ça c'est clair.
Jusqu'à présent, on connaissait surtout vos transcriptions de répertoire russe. Ici, c'est un programme très varié dans lequel on va se plonger, qui va de Jean-Sébastien Bach à Shostakovich, en passant par Rimsky-Korsakov, Mendelssohn ou encore Prokofiev. Vous élargissez considérablement votre champ d'action dans le domaine de la transcription. Vous aviez envie, en même temps, de vous lancer de nouveaux défis, de chercher de nouvelles textures pianistiques?
Oui, en fait, effectivement, j'avais fait un premier disque de transcription uniquement de musique romantique russe, et je pense que c'est quelque chose qui marchait assez bien au piano et pour lequel j'avais trouvé certains outils qui me semblent étaient assez appropriés. Et puis ça a aussi coïncidé avec le moment où j'ai eu un nouveau professeur, Claudio Martinez Mener, après avoir travaillé avec Vassili Lobanov pendant beaucoup d'années. Et c'est aussi le moment où voilà, j'ai commencé par exemple à m'intéresser au baroque, qui était quelque chose qui était très éloigné pendant mes études avec Lobanov. J'ai commencé aussi à m'intéresser à des musiques plus anciennes, à découvrir un petit peu le jazz. Voilà, vraiment à élargir ce répertoire, et donc j'avais envie de voir aussi dans quelle mesure je pouvais renouveler ces talents ou cet exercice de transcription, voilà, en le confrontant à un nouveau challenge, à un nouveau répertoire, et en voyant ce qui se passe. En fait, c'est une manière un peu de risquer de nouveau ce qu'on a réussi à faire avec autre chose. Donc voilà, j'avais voulu voir en fait dans quelle mesure le piano pouvait se prêter à plein de registres très différents et à des évocations chaque fois nouvelles, que ce soit un jazz band, un ensemble baroque, la musique de la Renaissance, un orchestre symphonique, etc.
Thank you. Le premier mouvement du concerto pour quatre clavecins de Jean-Sébastien Bach, dans la transcription de Florian Noack, qui ouvre ce superbe album de transcription sorti sous le label La Dolce Volta. Vous transcrivez ici, Florian Noack, une œuvre qui a été écrite à l'origine pour quatre clavecins, donc 40 doigts et un orchestre avec uniquement 10 doigts. Quel genre de défi cela représente? Déjà beaucoup de compromis, j'imagine.
C'est certain compromis. C'est vrai que c'est une transcription un petit peu différente de la plupart des autres qui sont sur le disque, dans le sens où, pour beaucoup des pièces que j'ai enregistrées, la plupart, en fait, dans la transcription, il y a beaucoup d'ajouts. C'est-à-dire que pour suggérer la richesse de l'orchestre, on en revient à une richesse pianistique, et donc avec des textures proprement pianistiques, et donc en fait en ajoutant du matériau qui n'est pas dans l'original. Ici, on a voilà quelque chose qui est déjà pour clavier, pour quatre claviers, donc on est un peu plus dans une logique de réduction que dans une logique d'ajout. Il y a beaucoup de choix, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut laisser tomber. Voilà, parfois on laisse tomber quelques notes dans un instrument et puis quelques notes dans un autre pour en fait quand même créer une sorte d'illusion acoustique qu'on joue. Voilà, qu'il y a plusieurs plans sonores qui évoluent en même temps. Donc c'est vrai que c'est une transcription qui avait un peu plus un côté puzzle par rapport aux autres. Oui, en fait, c'était intéressant parce que c'était une créativité qui était vraiment moins dans le fait d'ajouter et plus dans le fait de vraiment choisir.
Mais transcrire en général, transcrire une œuvre orchestrale, par exemple, c'est forcément faire des choix quelque part.
Oui, je pense. Alors c'est vrai que j'aime bien imaginer que je ne trahis pas complètement, que je ne dénature pas entièrement l'œuvre d'origine, sauf alors quand c'est une paraphrase où là, on se permet un peu plus de liberté. Mais il y a quand même toujours des choix parce qu'en fait, même à l'intérieur d'un certain type de texture, mettons une texture un petit peu aquatique avec beaucoup d'arpèges, etc. En fait, il y a 25 manières différentes d'écrire ces arpèges et il y a des différences infimes entre ces 25 scénarios, mais il faut quand même en choisir un. Donc on est constamment dans l'obligation de se positionner d'une certaine manière. Même si, voilà, moi j'essaie de le faire en pensant, en m'imaginant que je reste un petit peu dans l'esprit ou dans ce que je crois être l'esprit de l'original.
Et comment est-ce que vous réalisez vos transcriptions, Florian Noack? Est-ce que cela se passe directement au piano ou à la table?
En fait, ça se passe, je dirais, d'abord dans le train, en marchant, en écoutant le morceau, en fait.
Et vous avez les doigts qui bougent?
Oui, en fait, j'ai même les doigts qui bougent en ce moment même, je m'en rends compte maintenant. Je crois que la première chose qui se passe, c'est que j'écoute beaucoup le morceau, je veux pas trop savoir comment il est écrit, à quoi ressemble la partition d'orchestre. Ça, c'est quelque chose qui vient au dernier moment, je dirais. La partition, la notation musicale, c'est quelque chose qui peut induire en erreur, d'une certaine manière. Ce qui m'intéresse, c'est l'effet sonore. Quel genre d'impression on a? Comment est-ce qu'on s'imagine que ça pourrait être rendu ou traduit au piano? Et donc à partir de ça, je commence à avoir des idées un peu floues. Et puis quand il s'agit de concrétiser ces idées, là je regarde la partition d'orchestre pour voir, tiens, quelles sont concrètement les notes. Mais j'ai déjà au départ une certaine idée du type d'outil que je vais pouvoir utiliser, simplement.
Et une idée donc des sonorités, puisque dans ce programme, Florian Noack, dans cet album, vous transcrivez des œuvres qui ont été écrites pour différents effectifs, pour des instruments anciens, pour des grands orchestres symphoniques. Donc vous pensez à ces sonorités originelles de ces œuvres, les sonorités propres aux instruments anciens, propres à la musique de chambre aussi.
Mais c'est-à-dire évidemment une transcription, c'est toujours un petit peu un travail d'illusion. C'est-à-dire qu'un piano ne sonnera jamais comme un orchestre, enfin, ou il ne ressemblera jamais à un hautbois ni à un violon ni quoi que ce soit. En revanche, je pense qu'on peut donner l'illusion que le piano a autant de registres, de richesses, de possibilités, de variétés qu'un orchestre en aurait. Donc, je pense que l'imitation n'est pas possible, à mon avis. C'est plutôt de l'ordre de la suggestion, et parfois ça m'amuse, en particulier avec Scheherazade, que j'ai beaucoup joué en concert. Il y a des gens qui parfois me disent « Après, on a entendu tout l'orchestre !» Mais je pense que non, je pense qu'ils ont juste entendu du piano, mais du piano qui donnait l'impression d'être plus que du piano, simplement. Et donc c'est vrai que voilà, je pense que j'ai toujours un peu une logique d'illusion. Voilà, par exemple, je pense que le concerto pour quatre clavecins de Jean-Sébastien Bach, il y a un côté évidemment grésillant quand on entend les quatre clavecins en même temps, il y a un côté très électrique. Et ça, un piano qui a un son, on va dire, plus rond, plus passif, plus lent dans la vitesse de prononciation, n'a pas. Mais du coup, par exemple, ça fait que je rajoute parfois des petits ornements dans les basses ou dans des choses qu'on entend à peine, mais qui donnent un petit peu d'électricité, un petit peu de dissonance et un tout petit peu d'activité à tout ça pour éviter le côté plus rond et plus mou, entre guillemets, du piano moderne. Voilà, c'est un peu parfois, comme dans une traduction, on utilise d'autres biais, d'autres outils ou d'autres mots pour, on l'espère, arriver à une même idée.
donc à créer cette illusion.
Voilà.
Alors vous avez réalisé notamment une transcription de Scheherazade de Rimsky-Korsakov. On va en écouter un petit extrait. Alors c'est vrai que Rimsky-Korsakov, c'était l'un des grands maîtres de l'orchestration, de la couleur orchestrale. C'est un défi de s'attaquer à un tel orchestre. Et c'est, j'imagine, particulièrement exaltant en même temps.
Et c'est une de mes anciennes transcriptions. Donc voilà, je l'avais fait quand j'avais une vingtaine d'années. En fait, Rimsky-Korsakov, c'est un petit peu un paradoxe, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui a à peine écrit pour piano. Il y a quelques œuvres, mais rien de très significatif. C'est un peu un magicien de l'orchestre. Mais en même temps, pour moi, c'est une œuvre qui est très naturelle au piano. Voilà, Scheherazade, c'est quelque chose qui évoque l'Orient, qui évoque la luxuriance, les mille et une nuits, etc. Et donc, il y a quelque chose de, on va dire, un peu de décoratif aussi dans l'orchestration. Et ça, c'est quelque chose que je pense on peut traduire au piano. Justement, c'est une œuvre qui laisse la possibilité au piano de rajouter plein de choses pour donner cette impression de richesse, de luxuriance, de rutilance, etc. Et en faisant ça, on suggère l'orchestre, et en faisant ça, on ne dénature pas l'œuvre, parce que c'est une œuvre qui est de base luxuriante et très riche. Voilà, je pense que c'est une œuvre, entre guillemets, qui se prête à une traduction, à une transcription qui n'est pas littérale, mais où je crois qu'on respecte l'esprit.
Un extrait de Scheherazade de Rimsky-Korsakov dans la transcription pour piano de Florian Noack. Florian Noack qui est notre invité ce soir sur Radio Classique, alors que vient de paraître ce magnifique album de transcription sous le label La Dolce Volta. Alors on connaît votre passion pour la transcription que vous nous révélez une fois encore à travers cet album. Est-ce que vous composez également? Est-ce qu'il y a un pas important à franchir pour passer de la transcription à la composition?
En fait, ça a été un peu un rétropédalage, la transcription, dans le sens où quand j'avais 16 ans, 16-17 ans, je m'étais un petit peu mis à la composition, comme un adolescent romantique écorché. Et donc, j'écrivais un peu des choses à la Rachmaninov, à la Mettner, très romantiques et sans doute pas extrêmement intéressantes. Mais ce dont je me souviens très bien, c'est qu'une fois que j'avais mon matériau, la partie dans laquelle je pense que j'étais assez bon, c'était l'habillage, c'était l'ornementation, la décoration, tout ça. Et je me souviens que j'avais plein d'idées de textures, de comment comment présenter ce motif sous différents éclairages. Et un moment, j'ai entendu Roméo et Juliette de Tchaïkovski pour orchestre, et je me suis dit, tiens, mais en fait, dans une pièce comme celle-là, je pourrais mettre en pratique toutes ces idées en ayant un matériau musical qui, pour le coup, est excellent et pas mes gribouillages infâmes. Donc voilà, en fait, je me suis un moment rendu compte que c'était l'espace pour moi dans lequel j'étais... Je trouvais le bon degré de créativité qu'il me fallait en ayant un matériau dont voilà la valeur on en est sûr, on sait ce que ça vaut, on sait qu'on aime ça, et donc voilà il y a une sorte de créativité dans un cadre. Cela dit, dans toutes ces transcriptions, il y a des choses personnelles dans la paraphrase sur des valses de Strauss qu'il y a sur le disque. Il y a des petits moments de composition. Il y a une introduction en boîte à musique qui n'est pas une valse de Strauss, qui est un petit truc que j'avais écrit moi-même. Il y a toujours des petites choses qu'on déguise un petit peu dans les transcriptions ou des contre-chants qu'on rajoute, qui sont une sorte de petite composition quand même. C'est minime, c'est caché, mais ça va très bien.
Mais on met beaucoup de soi-même dans une transcription, donc il y a une part aussi de composition. Ce magnifique album vient de paraître sous le label La Dolce Volta. Vous ne jouez pas que des transcriptions, Florian Noack. Vous jouez également des œuvres originales pour le piano et vous aimez mettre en avant notamment des compositeurs peu connus. Vous nous avez fait découvrir Liapounov. Vous avez célébré également Metner et vous jouez en ce moment en tournée un concerto de Nicolas Metner, son premier concerto pour piano.
Absolument, c'est d'ailleurs un grand chef-d'œuvre. C'est quelque chose que j'avais envie de jouer depuis que j'ai 15 ans, à peu près depuis que j'ai découvert Metner, et donc je suis ravi d'avoir l'occasion de le faire avec l'Orchestre National de Belgique, qui donc s'est lancé dans cette aventure avec moi.
Voilà, vous serez le 19 avril à Namur, le lendemain à Bruxelles, et on pourra vous entendre en France dans ce concerto à l'Auditorium de Lyon. Ce sera le 21 avril. Vous avez d'autres transcriptions en prévision? D'autres œuvres?
Alors j'ai un autre projet d'enregistrement qui paraîtra sans doute, je sais pas, peut-être dans un an ou un peu plus, qui est axé sur les années folles. Et donc voilà, ça c'est une époque un petit peu où justement la musique classique côtoie d'autres genres, la musique légère, le cabaret et le jazz. Et donc là j'ai aussi commis pas mal de transcriptions d'après Gershwin, Fats Waller, et c'est quelque chose qui à mon avis se retrouvera sur ce projet là
Oui, alors on en a un petit aperçu dans cet album qui a pour titre I Wanna Be Like You. I Wanna Be Like You, c'est une chanson de Walt Disney, une chanson du Livre de la Jungle que vous avez transcrite, qui conclut cet album. Donc c'est une façon de nous annoncer le prochain.
En fait, mais c'est le titre, évidemment c'est un clin d'œil parce que c'est effectivement la chanson du Livre de la Jungle de Disney, mais I Wanna Be Like You, c'est aussi évidemment le rapport à quelque chose qu'on imite. Donc il y a le rapport entre l'original et la copie d'une certaine manière. Donc oui, c'est la chanson du Livre de la Jungle. C'était une transcription que j'avais écrite pour ma sœur comme cadeau de Noël, comme on se fait des cadeaux parfois un peu poussés, enfin élaborés dans ma famille.
Elle en a bien de la chance, votre sœur.
Et puis finalement, c'est un cadeau qui s'est étoffé petit à petit. La transcription est devenue de plus en plus difficile. Et finalement, c'est un cadeau que je me suis un peu fait à moi-même. Je le dis non sans honte.
Voilà, et que vous nous offrez au disque. On va se quitter avec cette chanson de Walt Disney. Merci beaucoup, Florian Noack, d'avoir passé un moment avec nous.
Merci à vous. Thank you.
I Wanna Be Like You, une chanson du Livre de la Jungle signée Sherman Brothers, dans la transcription de Florian Noack, un extrait de ce formidable album, tout juste sorti chez la Dolce Volta.
Le coup de cœur de la Croix, avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
On part à Cracovie avec vous cette semaine.
Célébrer Pâques à Cracovie en musique, bien sûr, puisque du 25 mars au 1er avril, la cité polonaise, qui est vraiment un joyau d'art et de culture, se met à l'heure pascale, notamment en musique. C'est ce festival Mysteria Pascalia qui propose en effet 9 jours de concerts dans 9 lieux différents de la ville. Et la manifestation se décline en 2 cycles, un in et un off, selon la terminologie en vigueur pour les festivals. Fidèle du festival en tant qu'artiste invité très régulièrement, Vincent Dumestre, le fondateur de l'ensemble Poème Harmonique, en a désormais la charge de directeur artistique. C'est un amoureux de Cracovie, donc il aime parcourir aussi bien les monuments fameux que les petites ruelles cachées. Et le musicien a concocté une programmation très diverse et stimulante à la mesure de cette ville qu'il connaît et aime tant. Lors de la présentation du festival il y a quelques semaines, il a insisté sur les différents modes d'accès à la musique et aux œuvres qu'il souhaite proposer au cours du festival. Il y aura ainsi des grands concerts du soir où l'on retrouvera, outre le Poème Harmonique lui-même, dans les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, des artistes comme Simon-Pierre Bestion et son ensemble La Tempête, ou les Traversées baroques d'Étienne Meyer. Mais aussi, plus tard dans la nuit, après ces grands concerts, des dormitions, selon l'expression mystique, expériences recueillies et intimes dans les églises de la ville.
Vincent Dumestre a également souhaité, Emmanuel, mettre l'accent sur le clavier durant ce festival.
Exactement. Parallèlement aux concerts du soir et de la nuit, une série de récitals, de rencontres, de masterclass autour du clavier, autour des claviers plutôt, sera proposée avec les meilleurs maîtres que l'on puisse rêver, Justin Taylor et Jean-Luc O, Pierre Antaille, Patrick Ayrton ou Diego Arès, pour n'en citer quelques-uns. Vincent Dumestre, en effet, veut faire mieux découvrir les coulisses et les virtuoses du savoir-faire de la facture instrumentale, car il a constaté qu'en Pologne, il existait peu, voire pas d'ateliers de facture, alors que, dit-il, le pays forme de fabuleux interprète. Avec ses Keyboards Days, donc 3 jours durant, il souhaite offrir un vaste panorama du clavier, notamment à l'époque baroque bien sûr, mais avec une trentaine d'instruments exposés au sein d'un lieu de patrimoine remarquable comme il en existe des dizaines à Cracovie, le Palais Potocki. Des concerts seront évidemment programmés au fil de ces journées spéciales pour faire sonner certains de ces instruments et permettre un échange entre les interprètes et le public. Au cours de cette traversée pascale en musique, il faudra également être attentif à des concerts de musique judéo-séfarade dans la plus ancienne synagogue de la ville, ou aux propositions très joliment nommées « Dans l'oreille du peintre », qui invitera les auditeurs à suivre des musiciens dans les musées devant les œuvres d'art. Une occasion de rappeler que, entre autres chefs-d'œuvre de la peinture, Cracovie conserve la Dame à l'hermine de Léonard de Vinci, l'un de ses plus célèbres et mystérieux portraits féminins. Bon, je m'arrête là, en laissant évidemment le dernier mot, la dernière note, plutôt à Vincent Dumestre, dans Monteverdi et avec bien sûr son Poème Harmonique.
Le Lamento della Ninfa de Monteverdi par Vincent Dumestre et son Poème Harmonique. Vincent Dumestre, directeur artistique de ce festival de Cracovie qui se tient à partir du 25 mars où vous nous avez emmené cette semaine. Emmanuel, merci beaucoup pour ce voyage.
Laure.
Merci à Charlotte Tour-Lassalle pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, le journal se délocalise au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et pour toute la durée du festival, c'est Jean-Michel Duez qui sera aux commandes la première semaine et je vous y retrouverai à partir du 29 mars. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.